Il est 13h sur Radio Orient, bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. En Tunisie, la fête de la femme célébrée demain comme tous les 13 août, c'est le jour de l'anniversaire du Code du statut personnel, un texte considéré comme une avancée majeure en matière de droits des femmes. Entretien avec Ella Benyoussef, vice-présidente de l'Internationale socialiste des femmes. Un enfant sur trois est privé de vacances en France, raison pour laquelle le Secours Populaire organise des séjours de vacances pour les enfants, mais aussi pour les familles et les personnes âgées. Et nous écouterons Ouria Tareb, secrétaire générale de la Fédération de Haute-Garonne du Secours Populaire. Enfin, notre invité sera Aziz Keftouna pour Identité croisée, un roman publié chez l'Harmattan. Chaque année, le 13 août, les Tunisiens célèbrent l'anniversaire du Code du statut personnel promulgué le 13 août 1956, quelques mois après l'indépendance. La Tunisie occupe depuis une place unique dans le monde arabe en matière de droits des femmes. On écoute Ella Benyoussef, vice-présidente de l'Internationale socialiste des femmes.
Le 13 août correspond à la fête nationale de la femme tunisienne, mais pour moi c'est beaucoup plus important que le mot fête. Pour moi c'est une date qui met en avant le militantisme femme tunisienne pour que, et des hommes aussi, il faut jamais oublier cela, qui ont permis à toutes les générations qui se sont succédées après à bénéficier des droits dans leur pays, à bénéficier de l'égalité, de la parité, et à être de vraies citoyennes dans leur environnement. Si on veut rappeler un peu l'histoire, pensez que le CSP a fait de la Tunisie un pays pionnier, avant même la constitution de 59, et c'est une mesure pionnière qui a devancé les fondements de la première république qu'est la Tunisie. Elle a remis en cause tous les principes qui ont régenté le statut de la femme vers l'égalité. Il a nécessité aussi des réformes, par exemple comme la nationalité tunisienne pour les enfants nés d'une mère tunisienne et d'un père étranger, mais reste quand même toujours un petit bémol pour lequel nous ne sommes pas encore arrivés, qui est l'égalité dans l'héritage, qui pour moi et pour nous aujourd'hui, féministes, femmes militantes, est un objectif que nous devons réellement faire aboutir. Le CSP, c'est une source d'inspiration qui, aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas avoir quelques inquiétudes suite à la nouvelle constitution qui a été votée le 25 juillet dernier, qui a été votée à 25% à peu près. Ce n'était pas l'unanimité du peuple tunisien, malheureusement, et qui représente quand même aujourd'hui un danger. Pour rappel, en 2014, la constitution tunisienne a instauré la parité et l'égalité dans les processus de décision. Et le droit, par exemple, de se présenter aux élections et l'intégration du genre dans la législation du Code des collectivités locales en 2018, mais aussi la loi organique du budget qui a été votée en 2019. Ce sont des avancées que nous souhaitons continuer à faire évoluer. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout est suspendu. C'est un flou total. N'oublions pas l'article 5 dans la nouvelle constitution, et c'est un sujet des plus grandes préoccupations aujourd'hui entre le mot qui a été utilisé, la Umma Islamia, qui peut nous amener vers la Sharia. C'est le combat de toute une génération, c'est le combat qui va continuer. Nous restons toujours positifs pour notre pays, pour les droits des femmes dans notre pays, pour les droits des citoyens et citoyennes, mais soyons aussi vigilants et bonne fête aux femmes tunisiennes.
Ella Benyoussef, vice-présidente de l'Internationale socialiste des femmes. Au Maroc, un membre présumé de Daesh arrêté à Tétouan, âgé de 36 ans, le suspect était très actif sur les réseaux sociaux faisant l'apologie du terrorisme. L'Irak va continuer de fournir du fioul au Liban, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Najib Mikati. En juillet 2020, l'Irak avait accepté de fournir 1 million de tonnes de fioul pour faire fonctionner les centrales électriques du Liban. en échange de la fourniture de biens et de services médicaux. En Afghanistan, un attentat suicide a tué un haut dignitaire religieux taliban connu pour son opposition au groupe État islamique. Rahimullah Akhani est mort en même temps qu'un de ses frères. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Après le 15 août, un enfant qui n'est pas parti en vacances ne partira plus. C'est le constat fait par le Secours Populaire qui organise chaque année les journées des oubliés des vacances. L'association a aidé aussi tout cet été des familles et des personnes âgées à partir en vacances. On écoute Ouria Tareb, secrétaire générale de la Fédération de Haute-Garonne du Secours Populaire.
C'est une campagne qui est importante pour nous parce qu'on sait que malheureusement, un enfant sur trois, en tout cas, ne part pas en vacances et c'est de même pour les familles. Nous avons développé des journées bonheur que nous appelons. Donc l'idée, c'est de permettre aux familles de changer d'air, ne serait-ce que le temps d'une journée. Nous avons développé aussi notre grande journée des oubliés des vacances qui va se dérouler après le 15 août, qui est un moment aussi important pour nous parce que tous les enfants qui n'ont pas pu partir en vacances, en fait, ça va aussi leur permettre de raconter à leurs copains à la rentrée qu'ils ont fait au moins quelque chose, ou en tout cas qu'ils ont vu la mer ou qu'ils ont vu la montagne et autres, mais qu'ils aient quand même une histoire à raconter par rapport aux vacances. Dans notre Garonne, on a déjà organisé une vingtaine de journées bonheur. Donc dans différents endroits, on a essayé de permettre à des familles d'aller à la montagne, d'aller à la mer, d'aller dans des parcs d'attractions, parce que c'est toujours aussi un bonheur pour les enfants, visiter des fermes. Enfin voilà, on a essayé de trouver finalement des journées qui pourraient correspondre un peu aux envies et aux attentes d'à peu près toutes les familles. Voilà.
Et ce sont des familles que vous suivez tout au long de l'année ?
Ce sont des familles que l'on suit, oui, dans le cadre de nos permanences d'accueil, que l'on a rencontrées au moins une fois dans nos permanences d'accueil, qui sont venues pour nous solliciter, pour une aide alimentaire et autres, hein, parce qu'ils ne viennent pas forcément que pour ça, et qui n'ont pas les moyens de partir en vacances et pas les moyens de s'évader, de changer d'air. Voilà, donc on le propose aux familles que nous recevons dans nos permanences d'accueil, oui.
Et ça n'est pas destiné seulement aux enfants ?
Non, pas du tout, parce que on s'est rendu compte que finalement, on privilégie beaucoup les enfants, parce que pour nous, c'est malheureusement, c'est celui qui subit le plus, on va dire, la précarité. Mais on pense aussi aux parents, on pense aux personnes qui sont isolées, qui sont toutes seules, qui ne voient personne, qui ne rencontrent personne et qui ne partiraient pas seules, par exemple. Parce que c'est pas évident de partir tout seul. Tout le monde a besoin d'une vie sociale, d'échanger, raconter son quotidien. Ça fait du bien. Donc on essaye vraiment de toucher tous les profils. Les seniors, par exemple, aussi, c'est vraiment. On a mis un gros accent sur le départ en vacances des seniors parce que c'est des personnes qui sont souvent isolées, qui sont seules et qui ont besoin de rencontrer du monde et de pouvoir passer un moment. Assez sympathique. Je crois que c'est un des secteurs d'activité que les bénévoles font avec plaisir parce que les familles sont tellement contentes de partir et quand elles reviennent toujours, elles nous envoient une carte, elles racontent un peu ce qu'elles ont fait. Quand elles partent pour une journée, on a l'impression qu'elles sont parties une semaine en vacances. Tellement, quand ils nous racontent ce qu'ils font sur une journée, on a vraiment l'impression qu'ils sont partis une semaine en vacances.
Ouria Tareb, secrétaire général de la Fédération de Haute-Garonne du Secours Populaire. Le décès du dessinateur français Jean-Jacques Sempé, connu pour ses illustrations des aventures du petit Nicolas, âgé de 89 ans. Il réalisait aussi des dessins de presse, notamment aux États-Unis. Il avait réalisé plus de 100 couvertures pour le New Yorker. Enfin, notre invité est Aziz Keftouna pour un roman publié chez L'Harmattan, Identité croisée, un livre sur la question de l'identité et de la mémoire de la conquête de l'Algérie. Tout commence par un test ADN réalisé par le héros du livre. On écoute Aziz Keftouna.
L'idée de ce livre est venue d'une double idée. Je voulais traiter d'une période qu'on ne traite que très peu, qui est la période précoloniale ou la période dite de colonisation. On traite beaucoup le colonialisme lui-même en tant que système qui a évolué jusqu'aux indépendances, mais on parle alors assez rarement, on va dire, de cette période de 1830, notamment de la prise d'Alger, de la prise de la Smala, etc. La première idée, c'était de traiter de ce sujet-là. Et l'identité m'intéresse énormément, l'ADN, la génétique, etc. Et je voulais faire un lien entre les deux. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était de créer, à travers les yeux du personnage principal qui s'appelle Sébastien, donc un Français qu'on dirait aujourd'hui de souche, qui adhère à des tests identitaires pour justement avoir un contraste fort, je le voulais un peu identitaire, et à travers ses yeux d'identitaire d'aujourd'hui, de 2020, je voulais revivre cette période qui était la période 1830-1852, on va dire, qui est en fait le début de la colonisation, notamment par l'Algérie, qui était le premier pas du régime colonial français.
Alors le pitch de votre livre, c'est que Sébastien découvre qu'il a des origines maghrébines. Il pourrait en rester là, mais il veut mener une enquête et c'est ce qui va lui permettre de s'intéresser à l'histoire de l'Algérie.
Exactement. Donc, comme je disais, il est effectivement identitaire et au détour d'un cadeau de Noël qui lui est offert, il décide de franchir le pas et de faire ce test. À son grand désarroi, effectivement, il découvre qu'il a des origines d'Afrique du Nord et notamment d'Algérie. C'est là que l'enquête commence et fonde l'intrigue, on va dire.
Alors son enquête va lui permettre de découvrir des pans entiers de l'histoire de la colonisation de l'Algérie. Il découvrira notamment qui était l'émir Abdelkader. C'est un personnage que vous avez voulu faire connaître davantage.
Oui. Je sais qu'il est très connu de l'autre côté de la Méditerranée, évidemment en Algérie, parce qu'il est considéré comme le fondateur de l'État algérien moderne. Le roman national algérien en fait un super-héros. Super-héros, je le dis avec un peu d'humour. Hein. Il y a néanmoins quelques polémiques quant à sa reddition. Et je voulais surtout pas rentrer dans trop d'histoires, parce que je ne suis pas historien. Je voulais rester dans la fiction, tout en gardant le fond de vérité, le concernant, c'est-à-dire son passage, notamment sa période de captivité en France, etc. Donc c'est un personnage très important, qui gagnerait effectivement à être connu en France, puisqu'il a vraiment évolué en même temps que les grands tourments de l'histoire de France, à savoir effectivement la Restauration, le passage à la Deuxième République, le coup d'État de Napoléon, et donc il est vraiment dans cette intrication historique française. Son destin est complètement lié à l'histoire de France, en fait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est autant un personnage important pour l'Algérie que pour l'histoire de France.
Alors c'est un livre très ancré dans la France contemporaine puisque est brièvement évoqué la candidature à la présidentielle d'un homme qui nous rappelle Éric Zemmour, même si vous le nommez autrement.
Effectivement, je voulais rester dans le réel, malgré la fiction et le fait de changer un peu les personnages, on découvrira aisément de qui on parle, sur des personnages clés du monde identitaire en tout cas, et effectivement, c'était le lié à ça aussi, parce que lui, il fait partie de cette histoire-là, de berbères juifs qui, par les méandres de l'histoire, s'est retrouvé en France et souhaite donner la leçon à ce qui doit être français, ce qui ne doit pas l'être, alors qu'il a une histoire commune avec beaucoup de gens qui, comme lui, sont arrivés, comme ça, par le destin, on va dire.
Pourquoi avoir voulu parler des tests ADN ?
Alors, si on s'intéresse à l'histoire, à la génétique, on peut lire l'Odyssée des gènes du professeur Heyer, qui m'a vraiment inspiré, parce que je l'ai lu, je l'ai dévoré, effectivement, et on s'aperçoit que, voilà, y a pas de pureté, finalement, malgré ce que nous disent ces tests ADN, qui sont bien souvent des approximations et qui donnent effectivement quelques tendances. On retrouve chez des suprématistes blancs aux États-Unis parfois 20% de sang africain, on retrouve un peu d'asiatique en Irlande, on peut retrouver. Voilà, donc c'est assez, même quand on a l'impression d'être pur. Ethniquement parlant, on va dire, la génétique nous rattrape toujours, et la génétique c'est la science, donc elle nous rattrape toujours en nous rappelant que c'est finalement la culture qui est au-dessus de tout ça, et la naissance, l'enracinement à travers le temps qui fait qu'une culture, une langue naît, et évidemment pas de dimension raciale au sens scientifique du terme, qui n'a donc effectivement pas de sens scientifique, puisque on parle d'ethnies, et encore, elles sont assez complexes à déterminer, en fait.
Et donc, pour vous, ces tests ADN prouvent quelque chose, c'est que nous sommes tous frères, finalement?
Oui, oui, alors ça, c'est une des conclusions d'Evelyn Heyer, quand je disais l'Odyssée des gènes, c'est que, de toute façon, on descend, alors, quelles que soient ses convictions religieuses, son approche, sa lecture scientifique de l'histoire, etc., il y a un point commun, c'est qu'on descend tous d'un tout petit groupe d'hommes issus de la Corne de l'Afrique. Donc voilà. Ensuite, c'est les voyages de ces petits groupes d'hommes qui se sont répartis en Amérique à travers les droits de Göring, jusqu'en Australie, en passant par l'Asie, au Moyen-Orient, et que les civilisations sont nées à travers, au départ, d'un petit groupe d'hommes qui a quitté l'Afrique de l'Ouest et qui a évolué, qui s'est adapté et qui est devenu ce qu'il est physiquement. C'est-à-dire que quand on superpose une carte de l'ensoleillement et une carte de la pigmentation, des attributs physiques des uns et des autres, on s'aperçoit que c'est complètement lié, quoi. C'était un peu tout ça qui m'a amené à traiter ce sujet de l'identité et à en faire effectivement un roman. Le remettre dans une fiction, c'était le simplifier à souhait et le mettre dans une temporalité qui est 1830-2022.
Aziz Keftouna, il a publié Identité croisée, un roman chez L'Harmattan. Cette édition est terminée, je vous retrouve à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.